Code d'économie.
Le budget 2014 de la province de l'Équateur fait la une ce soir. Évalué à plus de 270 milliards de francs congolais, ce budget dont l'investissement occupe plus de 45% est jugé recevable par les députés. Et puis nous ferons le point sur le secteur minier en République démocratique du Congo. Notre invité de ce soir est le coordonnateur de la cellule de planification minière au ministère des Mines. Donna Kampata répond aux questions de François Kadima. Dans le Sud Kivu, les conducteurs des véhicules ne savent plus exercer le transport en commun vers le Rwanda ou le Burundi. Et pour cause, ils n'ont pas des plaques d'immatriculation et les documents provisoires livrés par la DGI ne sont pas acceptés à l'étranger. Bonsoir à tous. L'édition de ce mardi commence par la province de l'Équateur. Hier, le gouvernement a répondu aux préoccupations des députés provinciaux sur les prévisions budgétaires 2014. Ce projet a été déposé à l'Assemblée provinciale depuis le 26 décembre dernier. Il s'élève à environ 273 milliards de francs congolais et les députés provinciaux ont à l'unanimité jugé recevables les prévisions budgétaires telles que défendues par le gouverneur de province intérimaire. Sébastien Impeto estime que la priorité reste l'investissement qui occupe plus de 45% du montant global. Il est au micro de Paul-Richard Malingela.
Le budget, il est en équilibre en dépenses et recettes de l'ordre de 272 899 580 quelques francs congolais. En grande ligne, nous avons mis l'accent sur les investissements qui reprennent plus ou moins 45% de l'ensemble du budget parce que nous pensons que nous devions soutenir la politique du chef de l'État en ce qui concerne la modernité. Et l'Équateur, c'est un grand chantier. Et ce chantier-là, au niveau des infrastructures routières, hospitalières, écolières, nous devions plutôt mettre beaucoup d'accent là-bas. En dehors de ça, comme le gouverneur lui-même avait dans son programme mis l'accent sur l'homme, par rapport à la rémunération qu'il faut donner à cette personne pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, un accent particulier a été mis aussi dans ce côté-là. Et éventuellement, en ce qui concerne les créances, parce que ça, on en parle toujours. Nous avons intégré finalement les préoccupations des députés. Nous sommes en train de mettre sur pied la commission paritaire pour étoffer ce budget. Je crois que parce qu'ils ont voté le budget, c'est qu'ils se sont retrouvés par rapport à la réplique que nous avons donnée.
Notez qu'une commission paritaire assemblée exécutive provinciale est à pied d'œuvre des puis ce mardi, elle a 5 jours pour la toilette de la version finale du budget. Celui-ci pourrait être porté à 300 milliards de francs congolais, comme l'a proposé un député. François Kadima nous propose un zoom sur le budget.
Un budget est une prévision des recettes et dépenses d'une entité quelconque pendant une période donnée. Pour parler du budget de l'État, disons qu'il est l'instrument qui détermine les ressources et les charges de l'État. C'est une prévision de ce que l'État compte obtenir comme recettes et comment il va les dépenser à travers différents secteurs au courant d'une année. Nous l'avons dit, le budget de l'État comporte des recettes. Dans la recette, il y a des ressources propres de l'État provenant de taxes, impôts et des productions des entreprises publiques ou dans lesquelles l'État a une participation quelconque. Il peut y avoir aussi des ressources extérieures provenant de dons ou prêts de pays amis, d'organisations ou des banques internationales. Les dépenses, quant à elles, sont constituées du paiement de la dette publique et des intérêts ainsi que des charges à accomplir. Un budget est dit en équilibre si les recettes sont égales aux dépenses. Il est en déséquilibre dans le cas contraire. Si les dépenses sont supérieures aux recettes, on parle de déficit. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, on dit que le budget est excédentaire. L'écart entre les dépenses et les recettes est appelé solde budgétaire.
Seule l'exploitation industrielle des minerais peut permettre réellement à la population locale de profiter de ces richesses. Cette déclaration est du coordonnateur de la cellule de coordination de planification minière au ministère des Mines. Donna Kampata, que l'on recevait dans Panorama économique, souligne que cette stratégie, toujours prônée par le gouvernement, permettra également de mettre fin à l'exploitation illicite des minerais dénoncée chaque fois par les ONG nationales et internationales. Donna Kampata s'entretien avec François Kadima.
Le gouvernement a toujours demandé, même supplié dans les secteurs miniers, qu'il y ait une exploitation industrielle. Vous savez que le code minier est clair. Dans les sites miniers d'exploitation, même artisanal, on ne demande pas la présence de militaires ou bien de présence des policiers ou de l'ANR. Mais le problème, c'est probablement l'activité sécuritaire qui a existé dans la région. C'est pourquoi il y a peut-être cette présence de l'armée ou de la police sur place. Voilà la finalité pour arriver à éteindre tous ces phénomènes-là. Il faut qu'on mettre des usines pour que l'exploitation puisse se faire correctement comme on fait actuellement avec de l'or.
Vous êtes dans le mine, vous fréquentez le Katanga, la Gécamine, à travers son administrateur directeur, parle d'un bilan positif pour l'année 2013. Vous partagez le même avis que lui?
Vous savez, nous sommes déjà à la fin de l'année. Je n'ai pas encore eu le rapport, je reçois chaque fois les rapports de toutes les sociétés minières. Je n'ai pas les rapports de la Gécamine. Tout ce que moi je sais, les plans stratégiques qui a été publié à Indaba, Cape Town, en ma présence en 2011, on m'a donné ces plans-là. J'ai reçu des correspondances. Il a été critiqué par la Gécamine elle-même qui voudrait parler d'un deuxième plan de redéploiement pour dire que les plans stratégiques à mi-parcours n'étaient pas convaincants. Alors, je doute fort qu'on puisse me donner 80%. Il faudra attendre la fin de ce mois pour que je puisse analyser les rapports Gécamine. Mais sinon, du point de vue production, je crois qu'ils sont toujours en deçà de 30 ou 40%. C'est très, très très difficile. Augmenter les réserves, là c'est vrai parce qu'ils ont réacheté certaines mines.
Au Kassai Oriental, ces scams sont dans l'incapacité de travailler et pour cause, l'absence d'un arrêt du gouverneur de province réglementant les secteurs miniers tel que le recommande le texte de ces scams. Vous êtes au ministère des Mines, le texte dit quoi? Que dans chaque province, c'est le gouverneur qui doit signer un arrêté pour réglementer les secteurs miniers. Comment ça évolue?
Non mais ça m'étonne quand même parce que la réglementation est déjà au niveau national. À moins qu'il y ait du changement. Je sais bien que le fonctionnement des antennes de ces scams en province sont liés à ces scams au niveau national. Donc, ces scams au Kassai oriental, ça peut poser des problèmes parce qu'il faut quand même que le gouverneur puisse s'impliquer, puisse considérer ces services-là. J'ai toujours remarqué qu'il y a incompatibilité. Le gouverneur de province a créé une structure qui semble être parallèle à ces scams. Mmh. C'est pourquoi à ce moment-là, ça ne va pas. J'ai constaté que ces scams, quand vous allez au Katanga, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le gouverneur Moïse Katumbi travaille bien avec ces scams dans d'autres provinces. Mais Kassai Oriental, ça pose quand même problème.
Direction la province orientale où les camionneurs usagers de la route Kisangani-Ituri dénoncent la multiplicité des barrières sur le tronçon Nyanya-Bafoua-Sendé. On y signale également des tracasseries perpétrées notamment par la police, l'armée, la DGM, l'ANER, le transport et communication, l'environnement, les chefferies, secteurs et même les groupements. Les camionneurs affirment débourser plus de 600 dollars par véhicule sans toutefois recevoir une preuve de paiement, on sait nos massois.
La résurgence de multiples barrières démantelées par le président de la République lors de son passage en novembre dernier à Bafoua-Sendé est à la base de ces tracasseries. Certains camionneurs parlent de souffrances endurées systématiquement. Au début, c'est la barrière d'Avakoubi. Après Avakoubi, c'est l'office de route, centre commercial, rond-point PCR et le pont Lindi. Sur chaque barrière, l'enregistrement s'est fait à 10 dollars. À Avakoubi, il y a 3 barrières. On nous demande 25 dollars. Nous payons aussi 90 dollars pour la taxe de TCR, une taxe, disent-ils, instaurée par le gouvernement provincial. Transcom, nous payons 5 dollars. Le véhicule de 10 roues paye une amende de 50 dollars. Le FRDC, 10 dollars. Police, 10 dollars. Le transporteur de bois 10 dollars. De Beni à Kisangani, il faut préparer 600 à 700 dollars et cela sans preuve de paiement. Tout en regrettant les non-suivis des décisions prises par les autorités provinciales et nationales sur la libre circulation des personnes et de leurs biens, la société civile de Bafoua-Sendé déclare que ces tracasseries sont aujourd'hui à la base de la flambée des prix des produits manufacturés et des premières nécessités provenant de l'Est de la RD Congo. Agathe Odebese, vice-président de la société civile.
Les autorités viennent ici. Ils disent que non, on casse les barrières selon les décisions hiérarchiques. De leur passage, les barrières reviennent. Mais on s'est dit, bon, est-ce que c'est une complicité des autorités hiérarchiques ou bien c'est pour nous distraire nos populations? Donc tout ce que vous perdez comme prix d'achat, dépenses diverses, il y aura des conséquences sur le prix des produits manufacturés comme des denrées alimentaires.
Le ministre provincial ad intérim de l'Intérieur affirme qu'un ordre opérationnel signé par le gouverneur de province vient d'être mis en application pour le démantèlement de toutes les barrières illégales dans la province orientale. François Barthélémy Mayonga.
Le gouvernement avait signé un arrêté de l'ordre opérationnel ici. Dernièrement, on était à la réunion avec tous les responsables des agences que vous avez citées là, parce que j'assume l'intérim de mon collègue de l'intérieur. Il y a un effort qui est en train de se faire dans ce sens-là pour la sécurisation par province orientale.
Kisangani, Anselme Massoua, Écho d'économie.
Écho d'économie.
Et nous terminons par le Sud-Kivu. Les propriétaires des véhicules d'Uvira se plaignent de la rupture des stocks des plaques d'immatriculation des véhicules à la Direction générale des impôts. Cela fera bientôt 3 mois que la DGI Uvira délivre des documents provisoires à la place des plaques minéralogiques. D'après le président des agences de voyage à Uvira, ce document n'élargit pas la circulation des véhicules en dehors des frontières congolaises, notamment vers le Rwanda, le Burundi voisin, comme nous l'explique Fiston Ngoma Mayabala.
Cette situation met en difficulté principalement les importateurs de véhicules. Certains ne peuvent pas exercer les transports en commun entre Uvira et Bujumbura et entre Uvira et Bukavu en passant par le Rwanda. Même les véhicules avec la plaque d'immatriculation temporaire IT ne sont pas autorisés à rouler sur le voie publique. Beaucoup ont garé leurs véhicules dans leurs parcelles, d'autres disent ne pas comprendre la longueur des temps que tirent ces problèmes. Ce dernier soupçonne même l'insolvabilité de la DGI auprès de son fournisseur. À la DGI, on rejette cette allégation. D'après le chef des centres d'impôts synthétiques à Uvira, les fabricants allemands qui est la société Hutch et principal fournisseur de plaques minéralogiques en RDC avaient été très sollicités par plusieurs pays africains qui ont changé de plaques d'immatriculation l'année dernière. Le chef des centres Freddy Kouibe Mubona.
Le problème a été posé au niveau de la hiérarchie et nous pensons que selon les promesses de Hutch, comme le fournisseur a promis à partir du 20 aujourd'hui, ils vont commencer à dispatcher les plaques au niveau central et que peut-être dans 1 ou 2 semaines de plus, nous pensons que nous serons ravitaillés. On ne peut pas parler de l'insolvabilité parce que quand un contribuable achète la plaque, c'est lui-même qui va verser à la banque, lui-même verse la partie H et la partie trésor.
La même source a précisé que le fabricant allemand pourrait installer très prochainement ses machines dans les provinces de la RDC en vue de résoudre ses problèmes de rupture des stocks des plaques d'immatriculation. Fiston Ngoma Mayabala ouvrira pour l'Écho d'économie.
Ainsi s'achève ce numéro d'Écho d'économie, une émission supervisée par Nicole Ngaka, mise en onde par Paul Badianyama et suivie par vous. Merci.